Chapitre 16. Atterrissage. L'atterrissage fut aussi peu spectaculaire que l'espérait le capitaine Smith. Il fut impossible aux passagers de détecter l'instant où Univers opéra le contact. Une minute entière s'écoula avant que les passagers se rendent compte qu'ils s'étaient posés et poussent une acclamation. Le vaisseau se trouvait à l'extrémité d'une vallée peu profonde, entourée de collines, ne dépassant guère plus d'une centaine de mètres d'altitude. Celui qui se serait attendu à voir un paysage lunaire aurait été extrêmement surpris. Ces formations ne ressemblaient en rien aux pentes douces et lisses de la Lune, érodées depuis des millions d'années par les micro-bombardements de météorites. Ici, rien n'avait plus de 1000 ans. Les pyramides étaient beaucoup plus anciennes. À chacune de ces révolutions autour du Soleil, allait était remodelée et réduite par les feux solaires. Depuis le périhélie de 1986, la forme du noyau s'était légèrement modifiée. Jamais à court de comparaisons audacieuses, Victor Willis l'exprima assez bien à ses compagnons.
« La cacahuète a pris une taille de guêpe. »
Effectivement, quelques indices laissaient prévoir qu'après encore quelques révolutions, Halley se séparerait en deux fragments sensiblement égaux, comme la comète de Biela qui avait stupéfié les astronomes en 1846. L'absence virtuelle de gravité contribuait aussi à la singularité du paysage. Partout des formations légères, instables, évoquant les fantasmes d'un peintre surréaliste et des amoncellements de rochers en équilibre invraisemblable qui n'auraient pas subsisté plus de quelques minutes, même sur la Lune. Bien que le capitaine Smith eût choisi de poser Univers en pleine nuit polaire, à 5 bons kilomètres de la chaleur incandescente du Soleil, la luminosité était amplement suffisante. L'énorme enveloppe de gaz et de poussière entourant la comète créait un halo lumineux parfaitement approprié à cette région, proche du phénomène d'aurore boréale sur la banquise. De plus, Lucifer fournissait sa clarté égale à plusieurs centaines de pleines lunes. Bien que prévu, la totale absence de couleur était décevante. Univers avait l'air de s'être posé dans une mine de charbon à ciel ouvert. L'analogie n'était d'ailleurs pas inexacte, car une grande partie de la noirceur environnante était due au carbone ou à ses composants, intimement mêlés de neige et de glace. Le capitaine Smith, comme il se devait, fut le premier à débarquer, en se hissant avec précaution hors du sas principal d'Univers. Il mit, sembla-t-il, une éternité à atteindre le sol, 2 mètres plus bas. Puis il ramassa dans sa main gantée une poignée de la poudre qui recouvrait la surface et l'examina. À bord, tout le monde attendait les mots qui figureraient pour la postérité dans les livres d'histoire.
« On dirait du poivre et du sel », déclara le capitaine. « Si c'était dégelé, ça pourrait faire pousser une assez bonne récolte. »
Le plan de la mission comportait une journée aller entière de 55 heures au pôle sud, et puis, s'il n'y avait pas de problème, un déplacement de 10 km vers l'équateur approximatif pour étudier un des geysers durant un cycle nuit-jour complet. Le scientifique en chef Pendrell ne perdit pas de temps. Presque immédiatement, il partit avec un confrère sur un scooter biplace à réaction vers le phare de la sonde. Ils revinrent au bout d'une heure avec des échantillons de comètes qu'ils déposèrent fièrement dans le congélateur. Pendant ce temps, les autres équipes installaient un réseau de câbles le long de la vallée, une véritable toile d'araignée étirée entre des poteaux plantés dans la croûte friable. Ils étaient destinés à relier au vaisseau les nombreux instruments et à rendre les mouvements plus faciles à l'extérieur, ce qui permettrait d'explorer cette région de Halley sans s'encombrer de la lourde unité de manœuvre externe. Il suffisait d'attacher une longe à un câble, et puis de marcher en la tenant. C'était bien plus amusant que d'opérer avec les UME, qui étaient en somme des vaisseaux spatiaux personnels, avec toutes les complications que cela supposait. Les passagers, fascinés par ce qu'ils voyaient, écoutaient les conversations radio et s'efforçaient de participer à la découverte. Mais au bout de 12 heures, ou même bien avant dans le cas de l'ex-astronaute Clifford Greenberg, le plaisir d'être un spectateur attentif commença à s'émousser. Bientôt, on parla beaucoup d'aller dehors, sauf Victor Willis, qui se révélait d'une singulière discrétion.
« Je crois qu'il a peur », déclara avec dédain Dimitri.
Il n'aimait pas Victor depuis qu'il avait découvert que le savant n'avait pas d'oreille. Bien que ce fût extrêmement injuste pour Victor, qui acceptait avec bonne humeur de servir de cobaye à des études de sa curieuse infirmité. Dimitri se plaisait à ajouter sombrement.
« Un homme qui n'a pas la musique en lui est fait pour la trahison, les stratagèmes et les vols. »
Floyd avait son opinion toute faite avant même d'avoir quitté l'orbite de la Terre. Maggie M. était assez folle pour tenter n'importe quoi et n'aurait besoin d'aucun encouragement. Son slogan « Un auteur ne doit jamais repousser une occasion de connaître une nouvelle expérience » avait eu un impact considérable sur sa vie émotionnelle. Iva Merlin, comme d'habitude, n'avait rien révélé de ses intentions, mais Floyd était résolu à lui faire personnellement visiter la comète. C'était le moins qu'il puisse faire pour maintenir sa réputation. Tout le monde savait qu'il avait largement contribué à faire inscrire la fabuleuse ermite sur la liste des passagers, et le bruit courait maintenant, par plaisanterie, qu'ils avaient une liaison. Leurs réflexions les plus innocentes étaient joyeusement interprétées par Dimitri et par le médecin du bord, le docteur Mahindran, qui feignait de les considérer avec une admiration envieuse. Après une certaine irritation initiale, parce qu'elle lui rappelait trop vivement les émotions de sa jeunesse, Floyd avait accepté la plaisanterie. Mais il ne savait pas ce qu'en pensait Iva et il n'avait pas encore eu le courage de le lui demander. Même à présent, dans cette micro-société où il était difficile de garder un secret pendant plus de 6 heures, elle conservait beaucoup de sa célèbre réserve, cette aura de mystère qui fascinait le public depuis 3 générations. Quant à Victor Willis, il venait de mettre le doigt sur un de ces petits détails dévastateurs qui peuvent détruire les projets les mieux ourdis. Univers était équipé des toutes dernières combinaisons Mark 20, avec visière anti-buée et anti-reflet permettant une incomparable vision de l'espace. Or, même si les casques étaient proposés en plusieurs tailles, Victor Willis ne pouvait en mettre un sans procéder à une amputation importante. Il lui avait fallu 15 ans pour mettre au point son look. Un triomphe de l'art aux pierres, avait dit un critique, peut-être avec admiration. Maintenant, seule sa barbe séparait Victor Willis de la comète de Halley. Il lui fallait choisir entre les deux.